Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Nicolas, un TGV à 150 milliards. Je ne sais pas si tu as vu l'article ce matin dans le Globe and Mail, c'est capoté, là.
Oui, ben on n'avait déjà pas les moyens pour un TGV à 60 ou à 90 milliards, encore moins pour 150 milliards. Donc, c'est complètement fou qu'on soit déjà rendu là. Puis, il faut dire qu'on n'est même pas... On n'a même pas complété l'étape de pré-développement qui nous permet vraiment d'évaluer le coût final du projet. Parce que apparemment, il faut dépenser pas loin de 4 milliards de dollars pour finir cette phase de pré-développement-là qui va être complétée aux alentours de 2029. Puis c'est là qu'on va avoir une idée de l'échéancier complet, de où est-ce que les stations vont être, de ce que finalement on va avoir 7 ou 8 arrêts, parce que là, il y a Kingston qui vient de s'ajouter dans l'équation, puis il y en a d'autres qui veulent avoir leurs arrêts aussi. Chaque fois qu'on a un arrêt supplémentaire, c'est des coûts supplémentaires pour allonger la ligne. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais d'après moi, 150 milliards, c'est préliminaire. Là.
Et la première phase, là, ça va être genre Toronto, peut-être Ottawa ou Montréal. Dans le cas de Montréal, il y a un tunnel. Là, je sais pas comment, je sais pas, tu as vu les préliminaires, là, mais ça coûterait au-dessus d'un milliard faire un tunnel. Là.
Oui, puis encore là, je veux dire, c'est drôle parce que rénover un tunnel à Montréal, par exemple, ça nous coûte quasiment le double. Fait que j'ai hâte de voir s'il construit un tunnel, ça va effectivement coûter juste un milliard. Là, quand on regarde ce qui se passe avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, puis il n'y a pas de TGV qui passe là-dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis surtout, encore une fois, on parle vraiment du coût des expropriations qui s'en viennent, puis des contestations judiciaires qui vont inévitablement être liés à ça, notamment dans le milieu agricole. Il y a déjà un branle-bas de combat qui s'organise dans plusieurs régions au Québec, notamment dans le coin de Mirabel. Mais ça, c'est vraiment juste pour le premier tronçon. Moi, je pense que ça va être le test ultime. Puis honnêtement, j'ai peur que ça, c'est ce qui arrive au final, c'est que bon, on nous promet un gros TGV déjà qu'on n'a pas eu moyen de se payer entre Québec et Toronto. Mais ça risque de finir entre Montréal et Ottawa, ce projet-là. D'après moi, quand ils vont voir là, que le tronçon a coûté aussi cher là, entre les deux villes, ils vont dire ben savez-vous quoi, je pense qu'on va se limiter à ça, puis on verra pour la suite des choses dans 25 ans. On va se ramasser qu'un éléphant blanc qui va nous prendre peut-être un siècle à construire.
Et puis je crois pas parce que la gang de Toronto, là, c'est Doug Ford et sa gang, là, eux autres vont vouloir avoir le tronçon vers l'Ontario rapide. Là. Tu sais, tu comprends? Là, si mettons, on part Québec, mettons, on prend la province de Québec, Montréal, Ottawa. Ottawa, là, c'est juste l'autre bord de la Gatineau, là, la rivière Gatineau. Donc, ça va pas dans l'Ontario. Et l'Ontario, eux autres, vont vouloir avoir leur lunch rapidement aussi. Fait que d'après moi, on va avoir des tiraillages de couvertes. Puis il va falloir mettre du cash vite, puis là, les coûts vont exploser.
Oui, puis Pierre, je vais peut-être rajouter avec Nicolas, répondre. C'est qu'on est en train de scraper, c'est quoi le principe d'un TGV? Un TGV, pour ceux qui l'ont pris en Europe, par exemple, c'est tu passes du point A au point B là, avec le moins d'arrêts possible pour que justement ce soit rapide. Ce qui avait sorti à Radio-Canada à un moment donné, c'est qu'on mettait tellement de stations. Puis là, imaginez quand la politique va embarquer encore plus là-dedans. Hey. L'Ontario, comme tu dis, va vouloir avoir ses pit stops un peu partout. En réalité, ça va être rendu aussi long qu'y aller en char, là.
Ben, c'est ce qu'on pense, là. On disait, là, on est à quoi, là, à 4...
C'était à peine deux fois plus rapide.
Exact. Puis le TGF, le train grande fréquence, lui, avec, va pas très vite.
Ah, ben là, ça va être un train à grande facture.
Oh, oui.
Mais effectivement, je pense qu'à la limite, le train à grande fréquence, il y a du monde qui en avait parlé, comme quoi, est-ce que, ben, à la limite, on peut placer ce genre de TGF-là ou sur le réseau existant pour essayer d'en créer un nouveau. Fait qu'il y a quand même une économie, ou du moins, il y a comme un intérêt un peu plus, je sais pas, plus crédible pour ce genre d'infrastructure. Mais au final, c'est ça, acheter des stations à tout bout de champ dans chaque municipalité, ça va juste augmenter la facture puis ça va réduire le temps de déplacement. Puis la question ultime, c'est combien ça va coûter embarquer dans ce TGV-là pour qu'il soit rentable? Parce que si je me trompe pas dans l'article du Globe and Mail, ça parle vraiment d'un coût aussi sur les 40 prochaines années où finalement on va se retrouver à subventionner massivement le prix des billets pour que ça reste intéressant pour les utilisateurs. Là. Sinon, ben ça va coûter trop cher puis ça sera juste pas rentable d'une manière ou d'une autre.
Puis là, on nous parle, tu vois, il y a un auditeur qui dit « Allez voir ce qui se passe en Californie. » Puis c'est vrai, le TGV en Californie, les coûts ont explosé. Là, à un moment donné, ils ne savent plus qui va payer. Là, c'est le fédéral, oui, mais là, il y a l'État de la Californie. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Si ça explose, on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qui va arriver? On va arrêter ce projet-là. On va le mettre un éléphant blanc. On a pas mal. On est bon là-dedans, des éléphants blancs. Là.
Oui, on a quand même toute une expertise dans le domaine au Québec. Mais en plus, moi, je me demande, parce que bon, les jeux sont pas faits pour le 5 octobre, mais je me souviens qu'il y a quand même le Parti québécois qui avait promis d'annuler le projet si jamais il formait le prochain gouvernement. Ça, j'ai hâte de voir c'est quoi la réaction de Ford en Ontario si jamais ça se concrétise. C'est sûr que pour la CAQ, les libéraux, puis Québec solidaire, bon, ces partis-là semblent vouloir maintenir le cap vers le projet. Mais si je me trompe pas, les conservateurs sont pas trop chauds à l'idée non plus. Mais à Ottawa non plus également. Fait que ce projet-là pourrait effectivement sauter en cours de route juste à cause d'un changement politique, que ce soit cet automne ou à moyen long terme à Ottawa. Mais il en reste dans tous les cas, je veux dire, quand on regarde des exemples à travers le monde, en Angleterre, entre London puis Birmingham, ou sinon, effectivement, San Francisco, Los Angeles, c'est que des explosions de coûts massifs. Puis au Canada, on n'a jamais été en mesure de faire des projets de cette ampleur-là dans les coûts projetés. Donc, je pense qu'on peut se permettre d'avoir la tête qui tourne quand on voit les projections qui nous ont refilées pour l'instant.
Juste pour renchérir sur ce que Pierre disait, Nicolas, sur le projet de la Californie. Donc, le but, c'était de relier San Francisco à Los Angeles en 2h40, à une vitesse de 350 km/h. En 2008, quand on a annoncé le projet, on le présentait à 33 milliards de dollars.
Là, il est rendu à?
On est rendu à, les estimations, entre 110 et 126 milliards.
Hey, c'est quatre à cinq fois la facture initiale prévue. Puis ici, on...
c'est pas fini. Là.
Puis il nous présentait ici le 70 à 90 milliards. Fait qu'il fait quatre fois ça. Mets le range à 70 milliards, 4 fois 7, c'est quoi, 28? 270 milliards à peu près? C'est à peu près ça, 300 milliards.
Oui, surtout que je veux dire, le tronçon de Los Angeles-San Francisco est plus court que celui entre Québec et Toronto.
Exact.
Aussi, c'est à considérer. Puis c'est pas les mêmes conditions climatiques non plus, même si les TGV fonctionnent l'hiver. Il y a quand même des conditions à respecter pour la fabrication. Ça va être intense. Je pense que si on s'en tire en bas de 200 milliards, ce serait un miracle.
Bon, campagne électorale, on va plonger dans nos vieilles pantoufles. On est habitué de jouer dans les chiffres. Et là, la CAQ, là, on regarde leur... parce qu'ils ont sorti leur cadre financier, d'ailleurs très contesté. Là, on dit qu'on aurait pour 9,7 milliards d'engagements, dont 8 milliards de promesses électorales chiffrées. Hey, ça fait du cash, là. Elle nous disait qu'elle avait un petit montant. Éric Girard, il dit, j'ai donné 250 millions à l'époque, quand elle est arrivée en poste. Puis là, on serait rendu à quoi? 9,7 milliards. Et à ce rythme-là, on va avoir des déficits pour le restant de nos jours.
Oui, ça ne serait pas surprenant, parce qu'effectivement, le cadre financier de la CAQ, bon, on va leur donner un point, parce que c'est les premiers à déposer leur cadre financier. Puis inévitablement, quand t'es le premier à faire l'exercice, t'es le premier à
faire ramasser.
C'est bien normal, donc c'est bonne guerre, sauf que dans les annonces qu'on fait, donc on parle de 9,7 milliards de promesses ou de mesures électorales, donc qui vont s'appliquer sur les 5 prochaines années, mais l'affaire, c'est que 86% de ces promesses-là, donc 8 milliards, c'est des engagements qui vont être faits prochainement. Donc, apparemment, c'est déjà chiffré, mais on a hâte de voir si ça va passer le test de la crédibilité une fois que ça va être annoncé. Ça, c'est bien beau de nous dire ça. En contrepartie, la moitié de cet argent-là, bien, environ 4,4 milliards, on s'attend à ce que ça nous soit envoyé du fédéral. Donc, on compte essentiellement sur l'argent des autres, pour ainsi le dire, ou plutôt du gouvernement fédéral pour être en mesure de colmater le manque de revenus qu'on va avoir pour remplir ces engagements électoraux-là. Puis une autre affaire qui me gosse beaucoup quand j'ai regardé les projections, c'est la croissance des dépenses. Parce qu'eux autres, ils se disent qu'en 2028-2029, qu'on va arriver proche de l'équilibre budgétaire, les dépenses vont juste augmenter globalement de 1,39%, puis en 2029-2030, de 0,78%. Je m'excuse, mais ça, c'est impossible. On parle d'une croissance des dépenses qui va être inférieure à l'inflation, surtout venant d'un parti politique qui, pour l'instant, ne promet pas de faire de réduction de la taille de l'État, des effectifs plus que ça. D'ailleurs, ils ont réussi leur objectif de réduire de 5 000 le nombre de fonctionnaires dans l'ensemble de l'appareil public et de la fonction publique et parapublique. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont rouvert les valves juste après. Ils ont comme levé le gel sur l'embauche de la fonction publique juste après avoir fini leur exercice. Fait qu'il n'y a pas d'engagement à ce qu'on réduise de manière durable la taille de l'appareil gouvernemental. Puis là, on dit que la croissance des dépenses va être inférieure à l'inflation d'ici la fin de la décennie, dans un contexte où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va être là, au niveau des tant du contexte tarifaire que de l'état de l'économie en général. Mm-hmm. Puis surtout que le gouvernement, au cours des dernières années, nous a souvent fait miroiter que la croissance des dépenses serait à X, Y, Z. Puis finalement, on était 2 à 3 fois plus élevé que ce qui était annoncé. Là.
Bien, ce qu'on comprend, c'est que là, ils ont table sur des scénarios. D'après moi, il y a des taxes puis il y a des impôts qui vont venir prélever à quelque part. Là. Si tu t'attends à une croissance des revenus de cette nature-là, c'est parce que tu viens de ponctionner quelqu'un à quelque part. Là. C'est ça qu'ils le disent pas non plus. Là.
Ben, c'est surtout que pour l'instant, ils se basent sur des, comment dire, sur l'état des revenus qu'on obtient des sociétés d'État, notamment de la SAQ, de Hydro-Québec et tout. Puis alors, je pense que ultimement, le plus gros
ben
c'est ça, la vache à lait qui va être la plus importante pour eux, c'est vraiment Hydro-Québec. Sauf que ça, c'est, je me base un peu sur ce que Thomas Jobin avançait là-dessus. C'est, puis moi-même, j'ai participé à un comité sur ce projet de loi-là. La CAQ a plafonné eux-mêmes les tarifs d'Hydro-Québec à 3%. Donc, ils ne peuvent pas s'attendre à des revenus plus importants que ça. Puis même que, d'ailleurs, présentement, à cause des investissements massifs d'Hydro-Québec annoncés pour les prochaines années, là, c'est pas loin de 200 milliards d'investissements ces 10 prochaines années, ils vont pas nécessairement avoir les revenus à leur disposition à refiler au gouvernement constamment. Mais la CAQ prévoit que leur modèle, leur cadre financier, grâce aux revenus des sociétés d'État, va être suffisamment soutenable. Mais ça tient vraiment sur pas grand-chose. C'est vraiment du wishful thinking. Puis encore une fois, moi, ce qui me fait constamment rire, c'est on est un gouvernement autonomiste, on est là pour les Québécois, mais on a besoin du fédéral pour nous aider à balancer les chiffres à chaque fois. Là.
Ben oui. Puis ça sera pas différent. Mais là, tu sais, tu parles d'Hydro-Québec, mettons les tarifs 1. Si c'est ça qui est le plan, il va falloir qu'ils nous le disent en campagne électorale. Si vous nous élisez, il va y avoir une hausse des tarifs. Puis deuxième, leur deal là, avec, pour Churchill Falls, là, qui a l'air à tenir à pas grand-chose. Le PQ a pas trop l'air, s'ils sont élus, ils n'ont pas trop l'air friands de ne pas renégocier ça. On ne sait pas trop où ça s'en va. Mais on le sait, là, ça avait déjà été dit ça, par, je pense, avec Claude Garcia puis Claude Montmarquette aussi, que l'essentiel de la productivité d'Hydro-Québec tient à ce deal-là. Puis le fameux bloc patrimonial où on a des tarifs résidentiels réduits tient à cette entente-là. Là. Fait que si on, les chiffres moi, que j'ai vus... c'est sûr qu'il va y avoir une hausse quelque part ou sinon bien, le gouvernement va devoir se priver des fameux dividendes.
Là. Exactement. Puis c'est une des problématiques aussi, c'est qu'en plafonnant ses tarifs, Hydro-Québec n'a pas plafonné ses dépenses. Ils sont engagés quand même dans cette course à l'électrification dans laquelle ils sont fait pousser à aller dans cette direction-là par le gouvernement aussi. Donc, il y a quand même... Comment dire, il y a toute une dynamique qui se crée au niveau de l'énergie présentement au Québec qui fait en sorte qu'on a vraiment la tuité à croire qu'Hydro-Québec va être en mesure d'emmener des revenus de plus en plus importants.
Ben c'est ça, là. Ils vont augmenter les tarifs.
Non, mais faut qu'ils le disent.
Ben exact.
Ils diront pas, ils sont en élection.
Ben non, je le sais bien, mais là, c'est bien beau, trompe, puis on va vous protéger, mais allez-vous protéger les factures du monde?
Ben non, clairement pas, là. Ça va augmenter. La pression va venir de
là. Il faut que quelqu'un allume les gens qui se présentent. Là, il faut vous questionner la première ministre là-dessus. Là. Déjà qu'ils ont eu une free ride avec l'histoire qu'on avait des surplus. Ces surplus-là ont comme disparu. Il n'y a jamais personne qui est venu s'expliquer de ça.
Non, surtout qu'Hydro-Québec est rendu un importateur net maintenant d'énergie.
Oui.
On crache sur les Américains, mais en même temps, on est rendu à leur achat de l'électricité.
L'hiver, oui.
Ça fait plus aucun sens. On va peut-être s'entendre sur une chose, en tout cas, tant qu'à moi, les ambitions d'électrification d'Hydro-Québec sont complètement démesurées. Ça, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu de réalisation politique à ce niveau-là pour leur dire « OK, on met ce pied sur le frein, on va se concentrer sur ce qui est faisable. » En plus, il y a pas à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, que ce soit un parc éolien ou autre, ou un nouveau projet de barrage dans le Nord, il faut quand même le dire, il y a toute une dynamique assez particulière avec les Premières Nations. C'est des consultations qui sont très longues. Si jamais ça avance pas, si jamais c'est pas concluant, ben effectivement, on doit retourner à la case départ. Puis le Churchill Falls, effectivement, ça va peser très lourd dans la balance par rapport à la profitabilité d'Hydro-Québec. Puis ça, c'est quand même un défi, pas juste pour la CAQ, mais pour tous les partis politiques. Qu'est-ce qui arrive si nos sociétés d'État, comme Hydro-Québec, comme la SAQ, comme l'Auto-Québec, ne sont plus rentables? Ça va être des revenus de moins en moins importants pour les coffres de l'État qui vont devoir être compensés ailleurs.
Ben oui. Donc, c'est des hausses d'impôts à venir. C'est un peu ça que tu nous dis. Mais dans le cas de Churchill Falls, les Autochtones ont dit, nous, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour l'instant. Là. On n'a pas été vraiment consultés dans ce deal-là. Là.
Ben exactement. Puis veut pas que ça rentre quand même dans les conditions qu'on a depuis plusieurs années, là, avec soit avec le gouvernement fédéral ou au Québec. Au fédéral, on a comme cette obligation, puis c'est avec raison. Je veux dire, moi, je pense qu'ils doivent être absolument consultés. Mais à partir du moment qu'ils mettent leur veto, qu'ils mettent leur poing sur la table, ben ça vient de créer un froid, puis ça peut enlever comme le goût au gouvernement soit d'aller de l'avant ou sinon à même des acteurs privés à s'impliquer dans le processus. Donc ça, veut pas, il va falloir quand même qu'il y ait éventuellement qu'il y ait un règlement qui soit plus solide que ce qu'on a présentement. Mais effectivement, tout est dans la balance pour le 5 octobre. Peu importe qui va former le prochain gouvernement, il va avoir la patate chaude de dealer avec Churchill Falls une fois pour toutes. Là.
Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup. Là, on a fait la CAQ. Ils vont sortir leur cadre financier de tous les partis. On les regardera un après l'autre. Là, la CAQ, c'est une stratégie, d'après moi, parce que si tu sors ton cadre financier le premier, si tu te fais attaquer, après ça, t'es clair. Ouais, et puis pour le reste de la campagne.
Elle met de la pression aux ses autres. Elle dit, ah, là, je presse les autres partis de sortir leur cadre, alors que il n'y a pas vraiment de presse. Là, la campagne vient de commencer.
Mais on ne se souviendra plus du cadre financier de la CAQ dans 30 jours, là, alors qu'on va se souvenir peut-être des autres d'ici le vote. Merci, Nicolas. À la prochaine.
C'est un plaisir. Et en passant, je peux me donner un petit dernier mot. J'aimerais juste dire que les cadres financiers, j'en connais pas un dans l'histoire qui a vraiment tenu là, la route jusqu'au lendemain des élections. Là.
C'est ça, exact. Non, hey, merci. C'est comme un plan d'affaires. Hein? Un plan d'affaires, tu le sais, Frank, tu es en business. Ton plan d'affaires tient la route devant le banquier 10 minutes. Là. Parce que dès que tu es sorti du banquier, là, ben là, la réalité vient de changer. Là. Tu sais, il arrive toujours de quoi en affaires, même affaire pour un cadre financier.
Ben, tu l'as dit tantôt, Éric Girard, il avait fait de la provision pour que les... Dans le temps, c'était Drainville et Fréchette. Maintenant, uniquement elle, parce que c'est elle qui a remporté la course.
Il avait mis 250 millions.
Il avait mis 250 avec ton flot, ben ça, dans le temps de le dire. Lui, il doit se ronger les ongles, pareil.
Il est venu voir JC.
Ouais, ça a l'air que tout va bien.
Il patinait pas à peu près. Voilà. Bon, hey, après la pause, nouvelle signature dans Couture dans le Mid, nouvelle chroniqueuse qui débarque. Jacinthe Ève Harel s'en vient.
Couture dans le Mid. Radio X.